Les formes ou les questions m'apparaissent, je les vois. Je n'ai aucune réponse, mais je vois. C'est un processus un peu hallucinatoire ou médiumnique. Je vois et ensuite je travaille afin de reproduire ce que j'ai vu. Je suis comme un animal sauvage dans la jungle, en haut d'un arbre, sans bruit. J'attends qu'une proie passe. Mon seul luxe est de choisir les proies. Et ces proies, ce sont la forme, l'idée ou la question qui m'apparaissent subitement, le plus souvent en marchant dans la rue. Jean-Michel Alberola est ce soir notre invité à l'occasion de deux expositions, une à l'IMEC à Caen autour de Franz Kafka, l'autre à Berlin autour de Walter Benjamin. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça tombe bien parce que Jean-Michel Alberola est un fan de musique et donc ça sera Elvis Presley.
That's all right, Mama, just any way you do, that's all right, that's all right, that's all right, Mama, any way you do. Well, Mama, she done told me, Papa done told me too, son, that guy you fooling with, she ain't no good for you, but that's all right, that's all right.
Si vous fermez les yeux, Jean-Michel Alberola, que voyez-vous à l'intérieur de votre tête?
Non, je vois pas quelque chose en fermant les yeux, moi.
Ah bon? Quand c'est les yeux ouverts?
Oui, quand je ferme les yeux, je vois rien.
Bah, vous avez vos rêves de temps en temps qui vous hantent, j'imagine.
Les rêves, je rêve pas beaucoup. C'est plutôt des rêves éveillés, donc il faut que j'ai les yeux ouverts. Donc, de temps en temps, je sais pas si ce sont des visions, mais... Comme vous avez dit au début de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui m'apparaissent à certains moments. Mais si je fais le compte, il y a assez peu de choses qui m'apparaissent. Ça m'apparaît beaucoup en lisant, surtout en faisant absolument rien.
C'est dur de rien faire, hein?
Ah non, c'est bien.
Ouais, mais c'est dur d'y arriver.
Le seul luxe des gens qui sont, qui s'occupent de l'art, quoi, ou qui fabriquent de l'art, quoi. J'ai du mal à dire artiste, mais le seul luxe de ces personnes-là, c'est de savoir que le temps pendant lequel ils ne font rien compte plus que le temps pendant lequel ils font. Moi, j'attends, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui attend. Je crois que je suis une salle d'attente à moi tout seul, mais oui, j'attends. Soit que les choses m'apparaissent, soit que la réalité politique, parce que je suis dans une réalité politique, tout d'un coup... forme des questions, et ces questions vont passer à travers des livres, et ces livres vont donner des visions qui sont en réalité des images à faire. Mais la plupart du temps, j'attends, quoi. La plupart du temps, il n'y a rien qui vient, quoi. Mais enfin, il suffit qu'il vienne simplement une seule chose pour que j'ai... Après, j'ai beaucoup de boulot, parce que les visions, c'est pas mal, c'est sympathique, mais après, il faut les faire, quoi. Et les faire, ça prend beaucoup de temps.
Donc vous ne croyez pas à l'inspiration?
Ah non, je crois que j'ai jamais cru à l'inspiration. c'est simplement c'est comment j'arrive à lire la surface du monde, si on arrive bien à la lire, hein, parce que je crois pas non plus à la profondeur, donc vous voyez l'inspiration, la profondeur, tout ça. On pourrait dire que l'inspiration, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, comme ça, à vous. Et la profondeur, ça serait quelque chose qui vient de l'intérieur à l'extérieur. Donc les deux, ça, je m'en fous complètement, c'est pas ça. Je crois beaucoup comment on peut arriver, c'est très marxiste, je vais dire, mais à lire la surface du monde, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une conscience claire de ce qui se passe, quoi, aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui se passe, quoi? C'est tout. Donc... on peut très bien faire un opéra ou une poésie ou je sais pas quoi par rapport à ce qui se passe. Même si on fait une poésie qui parle d'un bouquet de fleurs, si on a une claire conscience, ça parlera de l'état du monde, quoi. Toujours.
Mais avant la lecture, il y avait le son chez vous. Vous êtes né en Algérie, je crois savoir que vous avez vécu dans une caserne militaire. Vous avez entendu des choses. Ça vous fait rire
On va pas faire trop bio quand même, mais oui, ah ben oui, ça c'est sûr que j'ai entendu des choses. Ouais. Mais j'en entends toujours. De toute façon, dès que j'allume la radio, j'entends, parce que j'écoute beaucoup la radio, mais dès que j'allume la radio, j'entends des choses. Mais c'est de toute façon que des. En réalité, ce qu'on entend, ce ne sont que des conflits, quoi.
Enfin, tout le monde n'a pas passé sa petite enfance dans une caserne militaire en Algérie.
Pendant 3 ans seulement. Après, j'étais en ville. Après, j'étais à Alger. Mais quand j'étais à Alger, c'était 60, 61, 62. Là, c'était le pire. Mais, bah oui, j'ai entendu des bruits, quoi. Des bruits. Il y avait les bombes, il y avait tout ça, quoi. Enfin, c'est les trucs, c'est le lot quotidien des guerres, où qu'on soit. Mais je me souviens pas très bien de tout ça. Je m'en souviens pas. Ou peut-être que je veux pas m'en souvenir. J'en sais rien.
C'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous êtes réfugié dans les bibliothèques.
Il n'y a pas que les bibliothèques. Moi, je pense que pour qu'on commence à rentrer dans l'art, il faut d'abord fuir quelque chose. Sinon, ça ne marche pas. Et puis, on s'aperçoit que, assez vite, à l'adolescence en général, qu'une fois qu'on a réussi un tout petit peu à faire quelque chose, on trouve un endroit où on est très très bien. C'est l'endroit où on peut faire ce qu'on veut. En général, tous les gens qui créent, ils sont très très bien dans ce qu'ils font. Mais juste au moment où ils le font. Pas en dehors. En dehors, ils souffrent parce qu'ils sont entourés de personnes qui comprennent pas très bien. Que ce soit les parents, que ce soit la famille, le social, tout ça, etc. Bon. Mais sinon, à l'intérieur de l'acte créateur, ils sont très très bien là-dedans. Et ça correspond à ce qu'a rendu possible cette fuite. Mettons, si on parle de Kafka, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Kafka, Kafka, c'est quelqu'un qui fuit absolument tout. Il fuit la famille, il fuit le judaïsme, il fuit le couple, il fuit la société de Prague, il fuit son travail, tout ça, etc. Donc c'est quelqu'un qui est en fuite et qui trouve à l'intérieur de l'écriture un endroit où il est bien, comme un terrier, quoi. Donc le terrier, ça correspond assez bien à la situation de l'artiste, je vais le dire, là, l'artiste. Ouais. Il est possible que, par rapport à la question, il est possible que si je n'ai pas de souvenirs, c'est sans doute parce que j'ai fui quelque chose, quoi. Je pense. J'en sais rien. En tout cas, j'ai fui quelque chose, c'est sûr.
À propos de Kafka, dans cette exposition, vous avez tel un chercheur d'or. Vous avez cherché le nom de Kafka à l'intérieur des archives de l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine. Et vous y avez trouvé de nombreuses références. Et ça prend, cette recherche prend la forme finalement d'une entrée dans votre labyrinthe, Jean-Michel Alberola. Et il y a cette lettre de Franz Kafka à Max Brod. Max Brod, grâce à qui l'œuvre de Kafka nous est parvenue depuis. Voici ce qu'écrit Franz Kafka à Max Brod. « Je vais me borner à décrire l'ensemble. Je ne puis en dire plus que ce qu'on voit. Or, on ne voit que les détails les plus insignifiants, ce qui, selon moi, est justement un trait significatif. Cela parle en faveur de l'authenticité, même à l'égard des choses les plus stupides. Là où réside la vérité, on ne peut pas voir plus que des bagatelles à l'œil nu. » Ça vous parle, cette phrase de Kafka?
Oui, parce que c'est complètement... Kafka, c'est... Apparemment, c'est assez compliqué. Dans le sens où c'est quelqu'un qui écrit quatre œuvres définitives que pas mal de gens ont lues. En général, les gens n'ont lu que ces œuvres-là, donc ne connaissent pas le reste. À savoir la métamorphose qui correspond vraiment à la métamorphose comme ça de l'individu, comme ça à l'adolescence ou à l'âge adulte, j'en sais rien. Ensuite, il y a le procès. On arrête Joseph K, il ne sait pas pourquoi. Donc il va préfigurer comme ça tout le drame du XXe siècle, tous les drames du XXe siècle plutôt. Ensuite on a la colonie pénitentiaire, qui est quand même un des récits les plus épouvantables qui soit sur les appareils d'État et sur la justice. En Chine, donc au Xe siècle, le ministère de la justice s'appelait le ministère des châtiments. Donc bon. Et ensuite, on a peut-être le château, où c'est un objet qu'on n'arrive pas à atteindre, quoi. Mais en général, c'est les trois. Le procès, la métamorphose et la colonie pénitentiaire. Une fois qu'on a lu ces trois œuvres de Kafka, on n'a plus envie de lire Kafka. On est vacciné à jamais de la lecture de Kafka, parce que ça nous fait très mal, parce que tout d'un coup on comprend que finalement nous sommes tous aliénés, nous sommes tous menacés par les appareils d'État, etc. etc. Et donc, on oublie complètement que Kafka a développé une œuvre considérable. Il y a quand même quatre tomes de la Pléiade, quoi, entre la correspondance, les journaux, et puis les nouvelles ou les fragments. Et donc ce qu'il dit à Max Brod, il dit, si tu brûles quelque chose, tu peux brûler les trois romans, parce que ce sont des futilités. Ce qui est très intéressant, donc, par rapport à mon travail, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure de la fuite, c'est que Kafka est dans un lieu donné, politique, social, familial, religieux, etc., etc. Il quitte cet espace. Il écrit les trois œuvres que je viens de citer. Donc, il trouve quand même dans l'écriture une condition d'accueil. C'est-à-dire que c'est comme s'il posait l'état de la société dans lequel il est, dans les trois œuvres. Et ensuite, il va partir ailleurs, c'est-à-dire qu'il quitte deux fois le milieu d'où il vient. Ensuite, ce qui va intéresser Kafka, ce n'est pas de construire une œuvre précise, à savoir un roman, une nouvelle ou je ne sais pas quoi. C'est pas le problème. Le problème, c'est juste écrire. Donc, si Kafka décide d'écrire pour écrire, il va donc se contenter de décrire le monde qu'il a en face de lui. Mais le monde que Kafka a en face de lui, ce n'est pas simplement les phénomènes de coercition ou toutes les aliénations diverses, etc. C'est pas ça du tout. C'est ce qu'il voit, et ce qu'il voit, c'est vraiment ce que voit tout individu normalement constitué dans la rue, auquel il ne fait pas attention. On fait pas attention à ça. C'est-à-dire que ce que décrit Kafka, c'est la surface du monde dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il voit la totalité de la surface du monde. C'est ça qui est incroyable. Et donc, il a énormément de travail. Donc, il le dit. Il dit le travail qui m'attend est énorme, quoi. Et il dit ensuite le monde prodigieux que j'ai dans la tête. Donc c'est deux mondes. Il y a le monde qu'il voit et le monde prodigieux qu'il a dans la tête. Mais on s'aperçoit, en lisant les fragments, les récits très courts ou les nouvelles, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence entre ce qu'il voit et ce qu'il a dans la tête. Donc on retrouve un peu les questions du début, vos questions du début. C'est-à-dire que c'est le rêve éveillé de Kafka est absolument réel parce qu'il fait partie du monde qu'il voit. Je sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que, mettons pour les Chinois, pour les peintres chinois, de peindre un paysage, ce n'est pas peindre le paysage qui est en face de nous, c'est peindre le paysage dans lequel nous sommes placés. C'est-à-dire que ça, vous comprenez, on est inclus dans le paysage que nous sommes en train de peindre. Kafka, c'est ça. La plupart des lecteurs ne savent pas de Kafka, c'est que, finalement, c'est une très très belle description du monde tel qu'il était à l'époque de Kafka.
Vous avez parlé de cet endroit où on se sent bien, généralement quand on est enfant ou adolescent, et dont on ne veut plus partir parce qu'on l'a trouvé. Kafka, c'était l'écriture, et vous, c'était l'espace de la toile, Jean-Michel Alberola.
La toile, c'est venu après. Je crois que c'était l'espace, d'ailleurs je continue à l'avoir, cet espace, mais c'est juste un bureau, quoi.
Il faut un bureau avec des carnets où on dessine, ouais, des toiles où on peint.
Avec des livres, avec des carnets, avec une paire de ciseaux, avec une machine à écrire, avec un... Donc les carnets, ce sont des notes, ce sont des images, ce sont... Si vous voulez, c'est ce que j'ai trouvé à l'IMEC en faisant l'exposition Kafka. Je trouvais des carnets, des fragments, des lettres. Mais si vous voulez, c'est une sorte de... C'est un état. Le bureau, c'est un état naturel qui préside à tout acte de création. Et ensuite, ce qu'on a fait dans le bureau, ben on l'agrandit ou on le transforme en installation, je sais pas quoi. Mais d'abord, ça part du bureau. D'abord, c'est quelque chose qui est fait avec les mains, très petite échelle. Donc c'est ça plutôt. Ça plutôt. Avant de trouver. De toute façon, j'ai commencé à peindre sans avoir vu beaucoup de tableaux. J'ai surtout vu des films. C'est surtout les films qui m'ont influencé.
Vous vouliez devenir peintre ?
Non, je voulais faire du cinéma. J'ai jamais voulu faire de la peinture. Quand j'étais adolescent, je voulais faire du cinéma. Parce que je voyais pas, j'étais pas dans un milieu où on allait visiter les musées, tout ça, etc. J'avais un peu vu des reproductions de tableaux dans les livres de français, là. Je voulais raconter des histoires. Et finalement, c'est ce que je fais, je continue à raconter des histoires.
Je vous propose d'écouter la voix de Louise Bunuel qui va parler de sa vision du cinéma. C'est une archivina de 1958.
À ce moment-là, je n'étais pas un metteur en scène. J'aimais beaucoup le cinéma. J'étais assistant d'Epstein, comme vous savez. Mais le cinéma était un moyen d'expression pour aider dans notre lutte poétique, sociale, etc., les groupes surréalistes. Donc j'ai employé les images comme d'autres ont employé la poésie ou la peinture. Je ne connaissais pas de producteurs, ni personne. Je n'étais pas dans les milieux du cinéma. Alors ma mère m'a payé Les Chiens Andalous. C'est une bonne femme, bourgeoise, très catholique, elle ne savait pas ce que j'allais faire. Elle m'a payé Les Chiens Andalous. Après le Vicomte de Noailles, grâce à Cocteau, Vérard, tous les gens de l'époque, m'ont proposé de faire L'Âge d'Or. C'est-à-dire un film. Et j'ai fait le scénario et j'ai réalisé L'Âge d'Or. Voilà la raison. Mes rapports avec le mouvement surréaliste, c'était un surréaliste très convaincu. Et j'ai passé. Ça a été une discipline merveilleuse pour moi, pour le reste de ma vie. C'est un grand souvenir pour moi.
Nous venons d'entendre la voix de Louise Bunuel, qui a été très liée au surréalisme, en tout cas dans le début de sa carrière. Est-ce que c'est un cinéaste qui vous a impressionné, Jean-Michel Alberola ?
C'est très étrange parce que par rapport à ce dont je me souviens, comme ça, de mon enfance et tout ça, j'ai l'impression d'avoir vu Nazarin en 61. C'est une des très très rares image que j'ai de mon enfance. J'ai un souvenir d'une seule image comme ça de Nazarin. Donc, on va dire, il est possible, mais je suis pas sûr que ce soit Nazarin. Finalement, j'aime bien le penser. Il est possible que la première image que j'ai eue, à la fois du cinéma, puis à la fois de quelque chose autre, ça a été peut-être l'image de Nazarin. Donc, Nazarin était sans doute un des plus beaux films du monde, mais je sais que Bunuel, finalement, ressemble un peu à ce que j'ai trouvé de Kafka à l'IMEC. Dans le sens où Kafka développe des visions qui commencent par, lorsqu'il les décrit, elles sont très étranges. Et au fur et à mesure que l'on lit le texte, tout d'un coup, la vision se transforme en une chose absolument réelle. C'est-à-dire qu'il va décrire la chaise qui est contre un mur ou une bassine d'eau ou quelque chose comme ça. Mais au départ, ça a commencé... La chose est impossible. Et le texte se transforme petit à petit et devient tout à fait réel. Donc il passe de l'invisible au invisible. Kafka fait ça. Et Bunuel fait ça aussi. C'est-à-dire que c'est quand même le cinéaste le plus, à la fois le plus étrange, quoi. Mais en même temps, c'est le plus, celui qui décrit le mieux la réalité qu'il connaît, quoi. Il décrit très très bien la réalité. C'est presque comme un documentaire, Bunuel. Ce que contient ce documentaire ou ce morceau de la réalité est constitué de choses possibles et impossibles.
Et vous, décrivez-vous la réalité dans les toiles que vous faites, dans les dessins, dans les rébus et dans les films? Parce que vous avez dit que tout à l'heure que vous vouliez devenir cinéaste et pas peintre, mais vous êtes devenu les deux.
Ben, si vous voulez, dès que l'on parle de vision, mais enfin ça c'est le lot commun de tous les artistes, ils ont des visions. Quoi. Tout d'un coup, on prend le bus et puis on voit la pièce qui est là, on voit tous les écrivains de théâtre, tout ça, ils ont des visions. Mais
tous les jours, vous avez des visions.
Ah non, mais non, j'aimerais bien. Non, puis d'abord, j'aimerais pas parce que j'arriverai pas à les faire. J'ai pas le temps. Non, mais mettons, je sais pas, mettons sur la série que l'on connaît le plus hein, de mon travail, savoir Le Roi de Rien, c'est simplement en trouvant un jour un livre qui regroupait les photographies d'un studio de photos mexicain dans les années 20 ou 30. Donc j'ai trouvé le livre comme ça, un peu déchiré, tout ça. Puis je me suis aperçu que les gens qui posaient n'avaient pas de chaussures, alors qu'ils étaient habillés d'une façon, ils étaient habillés pour la photo, mais ils n'avaient pas de chaussures. Alors je me suis dit finalement c'est un peu ce que nous sommes quoi.
Des rois sans rien.
Des rois de rien, pas sans rien. Des rois de rien. Nous n'avons pas de royaume, rien.
Pas de couronne non plus.
Non.
Mais il y a des vraies reines, hein. Votre dernière exposition, ouais. C'était au printemps dernier.
Et la reine d'Angleterre.
Il y avait la reine d'Angleterre, elle existe, hein.
Alors j'ai dit roi de rien, reine de tout. La reine d'Angleterre, c'est simplement parce qu'elle a des tailleurs très colorés pour qu'on la voie de loin.
Comme j'ai elle a des chapeaux aussi.
Des chapeaux, le sac, tout assorti. Donc rose fuchsia. Vert pomme, bleu turquoise, tout ça. Et je trouvais que c'était pas mal parce que elle se pose un problème de couleur. Donc, bon, comme moi, je me
donc
pose des problèmes de
couleur.
C'est
une femme peintre.
Non,
elle est comme
c'est
vous.
Pas une femme peintre. Non, elle se pose juste un problème de couleur.
Bah vous aussi, vous posez
moi,
des problèmes de couleur.
Je me pose un
couleur.
Problème de couleur, mais ensuite, il faut que je trouve la couleur que je vois. C'est pour ça que je mets très longtemps à faire les tableaux, parce que j'ai pas trouvé la couleur que je voyais.
Et vous faites des tableaux qui eux-mêmes renvoient à l'idée même d'un tableau impossible. Vous faites des tableaux pour rendre la peinture impossible, l'acte de peindre impossible.
Non, non, non. Non, non, je veux que ça soit possible. Non, on voit juste une surface, c'est tout, qui est tout à fait possible, vous la voyez aussi.
Mais vous nous indiquez que s'il y a une surface sur un de vos tableaux, par exemple, vous indiquez le mot surface.
Je peux écrire le mot surface inconnu. C'est un peu le côté stevensonien, c'est-à-dire...
La recherche du trésor perdu.
Il faut qu'on ait quelque chose d'inconnu, sinon on ne peut pas avancer. Ça peut s'appeler l'utopie ou l'aventure, ou j'en sais rien, ou les livres de Conrad, ou même enfin, les livres de Duras, qui aimait beaucoup Conrad. Il y a un truc comme ça, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où on va. Quoi. Alors, bon, ça c'est la base, on ne sait pas où on va. Si on sait trop où on va, on est mort, quoi.
Savez-vous où vous allez ? Moi, je voudrais savoir où vous étiez le 16 août 1969 à 22h.
Le 16 août 1969 à 22h. Ah, ça me rappelle Passe-Montagne de Stevenin. Il dit ça aussi. Le 15 août à...
Le 16 à 22h. Vous avez pris un ticket, j'en ai la photocopie sous les yeux. Vous avez pris un ticket pour passer une nuit d'enfer.
Woodstock, Woodstock, le ticket de Woodstock. Je me demandais, par rapport à cette sorte de Moyen-Âge dans lequel on est, je me suis dit quel est le contraire absolu de ce Moyen-Âge. Et je me suis aperçu que c'était Woodstock. Vous ne pouvez pas trouver mieux. Puis Woodstock, en même temps, c'est l'histoire de la guerre du Vietnam, c'est l'histoire de toutes les communautés, tout ça... Los Angeles, San Francisco, New York, tout ça. Il y a un mouvement magnifique, c'est-à-dire c'est la fin de la contre-culture placide, quoi. Mais il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. De toute façon, ça se passait aussi en France, parce que de toute façon, la plupart des idées politiques des années 60, on oublie très souvent que c'est passé par la musique, d'abord par la musique.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Jean-Michel Alberola, Rolling Stones, Give Me Shelter.
ne suis pas intéressé pour la mythologie. Parce que la mythologie grecque est devenue le classicisme. Je n'aime pas le classicisme.
Elle est moins réaliste, d'ailleurs.
Elle est moins réaliste. Non, peut-être elle est réaliste, mais dans le monde archaïque grec. De toute façon, j'ai fait aussi l'Œdipe roi. L'Œdipe roi qui est enfin, sur la mythologie grecque ancienne, c'est-à-dire préhistorique, pas de l'âge de Sophocle.
Parce que des grands auteurs, Sophocle, Euripide et d'autres, ont pris cette mythologie, elles l'ont racontée, l'ont mise au théâtre. Alors que la mythologie arabe, c'est surtout une mythologie de conteurs.
Oui, c'est une mythologie qui est restée mythologie, c'est-à-dire populaire.
C'est ça.
Elle n'est pas passée à la culture de la classe dominante, c'est-à-dire à Racine. Il n'y a pas une Racine arabe. Mais vous savez, je suis toujours influencé par la peinture. J'ai commencé comme peintre. J'ai fait de la peinture pour comprendre la peinture des autres. Parce que à l'université, j'ai étudié avec Roberto Longhi, qui est le critique d'art le plus grand en Italie. Et il est mon maître. Et alors, j'ai commencé avec un grand amour pour la peinture. Et alors, si aussi les Mille et Nuits sont influencés par la peinture. Peut-être pas, il n'y a pas de peintre comme pour l'Évangile. Pour l'Évangile, on peut parler de Masaccio et de Piero della Francesca. Pour le Decameron, on peut parler de Giotto.
Giotto, oui.
Pour les Mille et Nuits, on peut pas faire des noms de peintres. Mais il y a toujours une influence peinturale.
Nous venons d'entendre successivement les Rolling Stones et puis vous avez peut-être reconnu la voix de Pier Paolo Pasolini. C'était au micro de Roger Régent et c'était au moment des Mille et une Nuits, c'était le 24 mai 1975. Pier Paolo Pasolini était peintre cinéaste comme vous, Jean-Michel Alberola, mais contrairement à vous, Pier Paolo Pasolini ne s'inspirait pas, disait-il, parce que quand on voit certains de ses films, on peut penser le contraire, de la mythologie grecque. Vous, vous en inspirez directement, puisque pendant des années, on ne vous appelait pas Jean-Michel Alberola, on vous appelait et on vous connaissait sous le nom d'Actéon.
Ah, c'est vieux tout ça, mais...
Ah bah oui, mais c'est vrai.
Oui, oui, c'est vrai, mais...
Actéon, c'est vous.
Non.
Ben Actéon, c'est un dieu grec.
Non, c'est un personnage de la mythologie, il n'est pas dieu.
Enfin, il fait beaucoup de choses, quand même.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit Pasolini, c'est-à-dire que... Parce que finalement, ce que disent Buñuel et Pasolini, c'est qu'ils sont partis de la peinture pour faire du cinéma. Moi, je fais l'inverse. Je suis parti du cinéma pour arriver à la peinture. Mais c'est là où on s'aperçoit que ce qui nous intéresse, enfin, si j'ose me mettre avec eux, ce qui nous intéresse les trois, ce serait plutôt juste l'image comme surface absolue. En sachant que l'image, que la surface cinématographique, c'est une surface éclairée de l'intérieur et seulement la surface d'un tableau, non, elle n'est pas éclairée. C'est quelque chose qui est assez neutre au niveau de la lumière, quoi. Si vous voulez, vous prenez les deux cinéastes. Bon, il manque John Ford, il manque les Straub et tout ça, etc. Mais il manque quand même, enfin, les deux cinéastes que vous avez trouvé pour notre histoire, ce sont les deux cinéastes les plus politiques dans le sens où quoi qu'ils fassent, hein, même si Pasolini tourne un compotier avec des fruits, ça devient une image politique. Et Buñuel, si tout d'un coup une autruche traverse dans l'Ange Exterminateur, c'est politique. Et donc ça montre bien que toute création, mais le cinéma s'en est emparé, parce que la peinture, elle a un peu laissé ça, c'est devenu autre chose. Mais toute création, elle s'inscrit dans une réalité politique. Et c'est ce que dit, alors, la grande phrase de Pasolini que tout le monde connaît, donc c'est « Je suis une force du passé », c'est ce dont il parle à propos de la mythologie. Donc moi, j'essaie d'obéir à ce précepte-là qui m'avait beaucoup marqué. Il dit ça dans la Ricotta. Et lorsque je vais à l'IMEC chercher les traces de Kafka, ou lorsque je cherche les 53 livres que Benjamin a lus en 1939 avant son suicide, c'est la même chose que « je suis une force du passé ». Et de toute façon, je ne peux faire les tableaux que je fais que parce que je sais que je viens après tout le monde. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est
mais
venir
tout le
après
monde
tout
est venu après tout le monde, tout le monde sauf à l'origine du monde.
Tout le monde vient après tout le monde. Tout le monde. Vous avez tout à fait raison. Mais
vous n'êtes pas un imitateur, vous êtes un créateur.
Imitateur, c'est pas mal. Parce que Kafka est un imitateur. Benjamin a un très beau texte sur l'imitation, sur le pouvoir d'imitation. C'est-à-dire que c'est parce que nous imitons que nous grandissons. Donc, tout le truc de l'enfance, etc., etc.
Benjamin allait jusqu'à reproduire et réécrire des textes des autres pour en faire lui-même
le
des
livre,
écrits.
Oui. Le oui, livre, oui. Les passages parisiens, mais disons que le principe d'imitation, c'est la base. Ce qui change d'un individu à un autre, c'est ce que l'on fait de ce qu'on a imité. Dans quel sens on le monte? C'est tout. C'est un collage, quoi, ou un montage. Et donc, ça donne tel individu, tel artiste, tel cinéaste, tel musicien, etc. Disons que notre chance, c'est de venir après tout le monde, et nous avons un énorme corpus derrière nous.
Mais vous n'imitez pas.
Ah si, moi j'imite, attendez, dans les tableaux, je dois imiter au moins 50 peintres à chaque tableau, donc.
Dans le même tableau?
Ah oui.
Il y en a 50.
Oui, 53 peut-être.
En partant de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui.
En partant, oui. En partant des primitifs.
Les Donc Chinois. Vous faites des montages.
Ah, je fais que ça. J'invente toujours quelque chose de connu.
Qui va paraître inconnu.
Non, c'est-à-dire que vous allez vous trouver devant un montage que vous n'avez pas vu auparavant. C'est tout. Voilà. Vous arrivez dans une expo, il y a un montage qui est fait par tel artiste. Enfin, moi, je suis comme les autres, hein. Mais tout d'un coup, il y a un tableau qui, vous voyez un tableau et vous dites, ah ben tiens, on n'avait pas pensé à ça.
Oui, mais parce qu'il y a aussi des inscriptions sur vos toiles. Il y a des rébus, il y a des énigmes, il y a des histoires. Vous racontez des histoires. Et chacun de vos tableaux peut faire peut-être référence à un Matisse ou un Miro ou un Poussin ou
oui,
un Goya
ou un Masaccio.
Oui. Mais non. En fait, il y a du Poussin, du Masaccio, du Picasso, du Miro, le tout dans un seul. Moi, je suis désolée, hein, je vois pas ça. Par exemple, je vais prendre un tableau, là, j'ai une reproduction d'un de vos tableaux. Alors, c'est pas un tableau qu'on a vu chez Daniel Templon il y a quelques mois seulement, c'est un tableau de 2008, qui était d'ailleurs présenté aussi à la Galerie Templon. Il s'intitule « Reprendre la conversation ». Il date de 2008. Reprendre la conversation, ça s'est écrit avec des lettres. Mmh. Je peux les lire. Mmh. Je peux dire que j'ai lu sur un tableau de Jean-Michel Alberola « Reprendre la conversation ». Et puis la suite, alors, il y a deux mains, là.
Je peux le voir, le tableau, vous l'avez
bah
pas
oui, puisque vous l'avez oublié.
Ah non, c'est un mur peint.
Oui, mais c'est quoi?
Ben, il y a deux mains. S'il y a deux mains, c'est qu'il y a une conversation. S'il y a deux, il y a une conversation. Tout seul, il n'y a pas de conversation. Mais de toute façon, on voit bien dans le monde politique dans lequel on est, si on ne reprend pas la conversation, on est mort, on est cuit.
Mais vous ne parlez pas à vous-même de temps en temps?
Ah non, surtout pas. C'est lorsque vous dites des rébus, ou je ne sais pas quoi, disons que l'ensemble de mon travail...
C'est ce qu'on regarde.
Oui, mais l'ensemble de mon travail est assez complexe.
Ah, dans le vous reconnaissez.
Je reconnais.
Et vous
mais
comprenez
façon,
vous-même.
Désolé, je ne suis pas venu sur la Terre pour faire un travail simple.
Mais est-ce que vous comprenez vous-même
pour,
ce
si
que
vous
faites?
Si vous voulez que le niveau se... Ah, il faut un peu lever ces brèches qui disaient ça. Là. Il fallait que le peuple monte comme ça.
Vous avez envie que le peuple monte en voyant vos toiles?
Pas moi, mais tout le reste, toute le problème de la culture et tout ça aujourd'hui, ça aide les gens à penser. Il y a tellement de choses qui disparaissent aujourd'hui que quelquefois, enfin souvent, je suis très triste parce que je me dis mais qu'est-ce qu'on va devenir quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir si on enlève de plus en plus de choses quoi? C'est tout. L'histoire du rébus, si vous voulez, c'est Un individu, une femme, un homme, ce sont des espaces complexes. Il faut toute une vie pour connaître une personne. Il faut même les enfants, on les connaît pas.
Et encore,
pour connaître une personne en respectant son seuil d'obscurité. Il faut jamais rentrer dans l'obscurité de l'autre, sinon on est fini. Mais disons qu'une personne, ce qu'elle présente à nous, c'est très très compliqué. en réalité. C'est compliqué. Et donc, disons que le travail que je fais, quand vous parliez tout à l'heure, au tout début de l'émission, vous disiez que donc, ce que je vois dans la rue, j'ai toujours essayé de faire, de penser mon travail comme quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on voit dans la rue. Mais vous savez très bien que ce qu'on voit dans la rue, c'est absolument indescriptible. Indescriptible. Au moins de le filmer ou de le photographier, mais c'est indescriptible. Donc, un individu est exactement pareil que ce qui se passe dans la rue. Mais enfin, là, je dis des banalités, mais, et donc, le travail que je fais depuis 40 ans, ce sont des moments les uns à côté des autres. Donc, il y a eu les peintures, après, il y a eu les dessins, les néons, les films, les phrases, etc., etc. Mais.
Le corps du monde, vous avez dit tout à l'heure.
La surface du monde. Disons que isolément, c'est pas très compliqué. Donc s'il y a un mur peint sur lequel il y a deux mains comme ça qui remuent, comme moi quand je parle, je remue les mains, voilà. Donc il y a marqué reprendre la conversation. Si on s'en tient à ça, ça va, c'est clair. Mais si on met reprendre la conversation avec le travail de recherche des manuscrits à l'IMEC à propos du nom de Kafka, ou alors à propos des 53 livres de Benjamin, ou mettons la dernière phrase la phrase de Brecht là qui m'obsède complètement en ce moment. Donc
laquelle
c'est dans le livre qui s'appelle Métis. Le livre des transformations, je crois, le livre des transformations, c'est un livre assez tardif de Brecht où il dit « Métis recommandait de considérer l'espace comme la forme de la matière ». Si vous trouvez une meilleure définition que celle-ci...
Ça veut dire quoi, selon vous, Jean-Michel Aldo?
C'est la définition de la surface cinématographique, photographique, picturale, littéraire, etc. C'est la définition de l'art absolu, ça. Il n'y a pas mieux. Cherchez, il n'y aura pas mieux. L'espace comme la forme de la matière. Donc, ce que nous faisons, nous créons des espaces. Nous créons des espaces avec une matière du monde, avec la matière personnelle, etc., 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 et nous donnons forme à cette matière. Donc, mais là, je l'explique comme ça, vite, mais c'est en même temps, c'est une phrase politique. Mais, et donc, si vous voulez, c'est simplement dans mon souci de décrire le monde, enfin bon, comme d'autres artistes, comme Beuys, comme Boltanski, comme Louise Bourgeois, tout ça, etc. C'est simplement des moments les uns derrière les autres, si vous voulez. Mais il se trouve que moi, je ne fais pas que des tableaux, donc c'est un peu le bordel, c'est tout. Mais si je ne faisais que des tableaux, ça irait. On dirait, voilà, c'est un peintre qui écrit, c'est un peintre qui fait des rois de rien, la reine d'Angleterre, des surfaces abstraites, etc., etc. Mais je fais d'autres choses parce que je pense qu'il y a certaines idées qui sont mieux exprimées par certaines formes. C'est tout.
Alors, c'est le bordel, mais c'est un bordel joyeux. En ce moment, donc, il y a Kafka à l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, mais il y a aussi à Berlin, Cosmos 1939. Je voudrais qu'on parle de Walter Benjamin, cette figure... cette figure tragique du XXe siècle, puisqu'il va se suicider à Portbou après avoir essayé de quitter la France où il était exilé politique en fuyant l'Allemagne nazie, et où, faute d'avoir pu traverser cette frontière, il s'est tué lui-même. Et vous, à Berlin, qu'avez-vous fait à partir de l'œuvre de Walter Benjamin, qui lui-même a passé en exil dans ses années parisiennes beaucoup de temps à la Bibliothèque nationale, qui à l'époque était rue de Richelieu, pour écrire certains de ses textes les plus fondamentaux, notamment les passages de Paris. Que faites-vous avec Walter Benjamin ?
Walter Benjamin, c'est quelqu'un qui est apparu assez tard, de toute façon, même en Europe, donc à partir des années 80, l'Italie, la France, tout ça, redécouvre Walter Benjamin, il y a plus de textes qui sont traduits, etc. Mais Benjamin, pour moi, c'est quelqu'un qui a su admirablement parler, à l'intérieur de l'école de Francfort, avec Adorno, Horkheimer, etc., à partir des manifestations infimes de la réalité. Il a su percevoir les développements que chaque détail, donc de la surface du monde, pouvait avoir comme résonance littéraire, politique, philosophique, métaphysique, ontologique, etc. Et donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup les formes, les petites formes. Par rapport à ce que j'ai dit là tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le travail que je fais, ce sont simplement des détails les uns à côté des autres, quoi, et un individu.
Je rappelle fait que vous avez fait une énorme exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris il y a quelques années qui s'intitulait L'aventure des détails.
C'est au Palais de Tokyo, ça.
Palais de Tokyo, pardon, juste en face.
Oui, parce que c'est des petites formes les uns à côté des autres. C'est une addition. Une addition. Un individu est une addition de détails. Bon, alors donc Benjamin. Donc je n'ai pas cherché à faire quelque chose avec Benjamin, c'est pas ça. Mais ce qui m'a troublé, mais l'histoire est assez longue, je n'aurai pas le temps de la raconter. Mais donc elle a commencé au Louvre, simplement à partir d'une sorte de plaisanterie comme ça ou d'un acte un peu incongru. Tout d'un coup, comme Benjamin notait tous les livres qu'il lisait depuis son adolescence, on a perdu le premier carnet, mais nous avons le deuxième carnet à partir de 1907. Donc je me suis dit, à partir aussi d'un livre de Georges Salles qui s'appelle Le Regard. Donc je me suis dit, je vais chercher dans la liste Le Regard de Georges Salles. Mais il se trouve que Le Regard de Georges Salles a été lu en 1939 par Benjamin. Donc il écrit un texte absolument prodigieux qui s'appelle à propos du regard de Georges Salles. Et donc je me suis dit, voilà, parce que moi, de toute façon, je passe mon temps, étant donné que la plupart du temps, je fous rien, je passe mon temps à vouloir occuper, si vous voulez, ce temps-là. Qu'est-ce que je pourrais faire pendant que je ne peins pas? Voilà, parce que je ne peins pas tout le temps. Alors donc, je me suis dit, je vais chercher les 53 livres de l'année 39. C'est-à-dire, à la fois la bibliothèque perdue de Benjamin, puisqu'il n'emporte pas les livres à Portbou, et en même temps c'est la dernière année de lecture, et on s'aperçoit en ayant cette liste que Benjamin lisait absolument tout. Il lisait des romans policiers, il lisait des traités de politique, l'âge d'homme de Léris, etc. Et le choix est absolument parfait. Donc j'ai demandé à un libraire, avec un libraire, on a cherché les 53 livres, et j'ai montré les 53 livres de Benjamin, d'abord au Louvre, et ensuite elle a été reprise par Berlin, parce qu'à Berlin, il y a l'Institut Benjamin. Et donc j'ai continué à présenter. Mais si vous voulez, l'exposition des 53 livres de Benjamin, elle tient dans la moitié du studio, là. Donc il me faut
notre studio est tout petit.
Oui, dans la moitié. Il y a 53 livres qui tiennent. Mais ce qui est très émouvant, c'est que on voit ces livres là ensemble, et donc ça doit dégager une sorte de, peut-être c'est peut-être une aura ou je sais pas quoi, mais ça dégage une disons le travail quotidien d'un philosophe perdu dans Paris, absolument démuni de tout, parce qu'il est d'une pauvreté exemplaire. Enfin, ouais, exemplaire, ouais. Bon, ouais.
Et vous allez continuer à être peintre?
Bon. Oui, on va dire ça. Mais j'aimerais bien faire un film. Comme ça m'éviterait de peindre.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma. Elle s'appelle Juliette. Et il décide de partir avec elle.
C'était Soul de Limi Nanas. Merci à vous, Jean-Michel Alberola. Je rappelle que votre livre, issu de votre exposition sur Kafka et intitulé Le Fleuve, est publié aux éditions de l'IMEC, de l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, et que votre exposition à Berlin, à l'université Humboldt, intitulée Cosmos 1939 et consacrée à Walter Benjamin, continuera jusqu'à fin janvier 2022. Merci à Sybille Clamins qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanessian. Et merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Et bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le journal d'info, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka pour son Very Good Trip.